merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Tout à l'heure, à 21h, le bulletin de réinformation de ce matin. À 21h30 et en direct, le libre journal de Paul-Marie Couteau. Et à 23h, le chant religieux polyphonique. Ce soir, en compagnie de Claudio, vous entendrez Spem in Allium de Thomas Tallis. Et puis tout de suite, la seconde partie du libre journal de la résistance française, dirigée par Emmanuel Ratier. Et en direct, vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé ce soir par Emmanuel Ratier, avec l'assistance de Françoise Varlet. Diffusé en direct le 11 mars de 18 à 21h, en différé le 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Donc pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Prieur, qui est le directeur de la CGB, qui est une des plus grosses entreprises, on pourrait peut-être dire la seconde, on va pas dire la première, la seconde, de la société numismatique française, c'est-à-dire, en tout cas, celle qui a le plus gros site internet français et européen, et qui doit se situer au deuxième ou au troisième rang des sites internationaux en matière de référençage de pièces et de billets.
Oui, sauf si l'on prend en compte nos amis américains qui, dans ce domaine, ont quelques centaines de milliers de pages d'avance sur nous.
Bon. Alors, vous avez écrit un ouvrage à succès dans la jury sur le tétradrachme syrophénicien.
Certes.
Bon, mais vous, bon, qui est une monnaie extrêmement particulière. En plus, vous êtes intéressé qu'à une petite période.
Oui, c'est une période qui concerne moins 57 jusqu'à 253 après Jésus-Christ. Et ce sont uniquement les monnaies en argent frappées par les Romains en Syrie, Palestine et Phénicie, et ceci uniquement sur l'étalon monétaire d'Antioche.
Voilà, donc rassurez-vous, on ne va pas parler de ça ce soir, parce que sinon, là, je sais qu'il y a 99,7% des auditeurs de Radio Courtoisie qui préféreraient aller dîner ou faire autre chose. Donc vous avez coordonné également les, je ne sais pas si vous les avez entièrement écrits, mais les très gros ouvrages qui ont été publiés par la CGB sur le franc.
Oui.
On en est à la septième...
Huitième
mouture.
Huitième, c'est la huitième édition. L'idée de départ était d'utiliser les archives de la monnaie de Paris pour présenter aux collectionneurs un outil précis de leur permettant de comprendre pourquoi les monnaies avaient été frappées, qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, en quoi étaient-elles rares et en quoi avaient-elles un sens par rapport à l'histoire de France. Donc, tous les deux ans, nous publions une nouvelle édition qui remet les cotes à jour. Mais la CGB, effectivement, a publié une quinzaine d'ouvrages. Je suis très loin de les avoir écrits, sauf un ou deux. Et en revanche, effectivement, je les ai coordonnés.
Alors, si je vous ai fait venir ce soir, ça n'est en fait pas pour parler de numismatique, sujet intéressant, ni même pour parler du franc, puisque vous aviez été un des animateurs de la lutte anti-euro, de l'introduction de l'euro en France, et vous aviez créé, je crois, un comité pour la défense du franc.
Non, ça, c'était pas moi, mais bon. Je l'avais, entre guillemets, bien connu et assez soutenu à l'époque.
Voilà. Donc, en fait, je vous ai demandé de venir parce que c'est... Bon, en fait, nous nous connaissons très bien, et ça fait plusieurs années que nous discutons à propos de l'or. Alors l'or, métal fabuleux, métal qui fait rêver, les trésors, les bijoux, les lingots, les Napoléons, etc., etc. Dès qu'on parle d'or, ça fascine évidemment les femmes, mais ça fascine aussi les hommes. Et il y a une dimension mythique et historique extrêmement lourde, très puissante. Quand on parle d'or, tout le monde va... Ça dit tout de suite quelque chose aux gens.
Absolument.
Alors que quand on leur parle de cuivre, alors qu'il y a même un cuivre, c'est vraiment, bon, et l'argent, bon, c'est intéressant, mais enfin, l'or, c'est beaucoup plus sympathique. Bon. Et, l'idée de cette émission, bon, est liée en partie à la crise financière économique, en tout cas la crise financière dans laquelle, totale dans laquelle nous sommes, et la crise économique qui est en train de prendre de l'ampleur. Et, donc, un vieux thème qu'on, pas un marronnier, mais enfin un thème qu'on retrouve de temps en temps, qui est l'or est-il une valeur refuge ? Donc je vous... Alors, évidemment, on va avoir un échange avec d'autres questions qui vont succéder, il y aura des interventions des auditeurs, que j'espère nombreuses, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la situation de l'or monétaire dans le monde ?
Alors d'abord, l'or est-il une valeur refuge ? Réponse oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Exemple pratique, lorsque vous êtes dans un régime totalitaire, comme par exemple l'Allemagne nazie, vous n'avez pas le droit de posséder de l'or. Donc évidemment, ça ne vous sert rigoureusement à rien d'en avoir, puisque même si cela protège théoriquement vos biens, vous ne pouvez absolument pas l'utiliser, ni le vendre. Donc, oui, bien sûr, une fois que le régime a changé, que l'or ressort, il a conservé sa valeur, contrairement aux billets de banque, par exemple. Donc, oui, l'or est une valeur refuge pour une raison extrêmement simple. Ça fait 4000 ans que les humains le recherchent, le conservent, l'échangent et lui attribuent une valeur. Donc, évidemment, quand on compare avec la monnaie fiduciaire, donc la monnaie papier... bon, l'or a quand même 38 siècles au moins de prééminence. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée parce que cela fait grosso modo un siècle que l'or n'est plus la monnaie.
Oui, alors ça, on va en reparler tout à l'heure, hein. Mais je voudrais qu'on approfondisse un peu justement sur l'interdiction de détenir de l'or. Bon, vous, parce que vous nous avez parlé bon, de l'Allemagne nationale socialiste, mais je pense qu'il y a peu d'auditeurs, il y a des gens très cultivés évidemment, mais un certain nombre, ne doivent pas savoir que par exemple les États-Unis ont interdit aux ressortissants américains de détenir, les privés américains, de détenir de l'or, je crois, pratiquement pendant 50 ans.
Tout à fait. Alors ça,
c'était au XXe siècle.
Ça, c'est le point qui était effectivement le plus intéressant aujourd'hui, parce que si la situation est mauvaise, et bon, la lecture du journal tous les jours nous le confirme, jusqu'où cela va-t-il aller ? Alors,
mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les États-Unis l'avaient interdit ?
Alors,
et nous dire à peu près quand.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le président Roosevelt est élu pour résoudre la crise de 1929, parce que c'est quand même ça la raison fondamentale, donc en 1933, il lance un énorme plan économique extrêmement ambitieux, mais qui a une corrélation monétaire directe. Les États-Unis cesse d'utiliser l'or comme métal monétaire. Avant 1933, théoriquement, plus dans la pratique, on pouvait payer des dollars en or. Et aujourd'hui, la pièce de 20 dollars en or est une des vedettes de la bourse aux monnaies d'or. Mais à partir, grosso modo, des années 20, il n'y a plus de circulation et on commence à utiliser du papier. Mais théoriquement, on peut toujours payer avec de l'or. Ce que fait Roosevelt en 1933, c'est que d'abord, il supprime la circulation, il supprime surtout la possibilité de détenir de l'or. C'est-à-dire un citoyen américain...
Mais comment il supprime la circulation de l'or ? Alors, il retire les pièces de monnaie.
Il les échange contre des billets. C'est-à-dire, il fait exactement ce
qu'il fait. Et pourquoi les gens les lui donnent ? Enfin, les donnent,
alors,
les rapportent aux banques.
Il y a deux raisons. Alors là, on veut croire que c'est par nationalisme, par patriotisme, mais c'est également parce que c'est 10 ans de prison si on possède de l'or. Il y a un executive order qui a été signé à l'époque et qui précise bien que c'est 10 ans de prison. Donc, tout le monde rapporte son or, les billets sont donnés en échange. C'est en réalité la même situation que l'on a connue en France en 1914, à partir du 2 août. La circulation de l'or est suspendue.
Pendant la Première Guerre mondiale, donc.
Absolument. D'ailleurs, c'est une chose qui est tout à fait stupéfiante. C'est que l'une des premières décisions qui est prise après la mobilisation, c'est on supprime la circulation de l'or. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on se rend parfaitement compte que lorsque l'on va devoir acheter à des pays neutres des matières premières, de la nourriture, X, il va falloir les payer avec de l'argent réel. Or, l'argent réel, c'est l'or. C'est en aucun cas le billet. Et on va constater d'ailleurs, pour revenir sur les États-Unis, que la loi que les Américains vont faire passer pendant la Première Guerre mondiale, dite loi Cash and Carry, est, quand vous achetez quelque chose aux États-Unis, d'abord vous le payez tout de suite et vous le payez avec de l'argent réel, donc de l'or, et ensuite c'est vous qui vous occupez de le transporter et de prendre le risque. Mais, donc, le point essentiel, c'est qu'effectivement on parle très peu de la confiscation de l'or aux États-Unis en 1933. Jusqu'à quand va-t-elle durer ? Elle va durer jusqu'en 1973. Et pendant toute cette période, le gouvernement des États-Unis va garantir une valeur de l'once d'or à 35 dollars. Alors, ça fonctionne.
Mais qui ne sert pas pour les privés ?
Non, qui sert par rapport aux échanges internationaux. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction du général de Gaulle dans les années 60 qui a été réclamée d'être payée en or. C'était quelque chose qui était extrêmement inconvenant, évidemment. Mais c'est ce qui a été fait. Donc, jusqu'en 73, une once d'or vaut 35 dollars. C'est garanti par le gouvernement des États-Unis. Mais malheureusement, en 73, on est en train d'arriver vers la fin de la guerre du Vietnam. Le gouvernement des États-Unis a dépensé beaucoup plus qu'il n'aurait dû. Et le dollar commence à battre de l'aile. Et ils sont obligés de couper le lien entre le dollar et l'or.
C'est ce qu'on appelait, en gros, l'étalon or, c'est ça ?
Alors, pas exactement, parce qu'un étalon or suppose qu'il y ait quand même des échanges monétaires réels. Bon. Là, c'est uniquement un point de référence. Et le dollar n'est pas garanti, entre guillemets, par de l'or. Mais vous pouvez, quand vous êtes un gouvernement, obtenir... Si vous voulez vraiment être très très désagréable avec les États-Unis, vous pouvez obtenir de l'or en échange de vos créances.
C'est ce que fera la France.
C'est ce que fera la France, et donc c'est pour éviter ce type de risque que en 73, donc cette possibilité est supprimée. Donc le dollar devient entre guillemets flottant. L'or aussi, évidemment, par la même occasion, et il va profiter de cette liberté pour passer donc en 7 ans de 35 dollars l'once à 850 dollars l'once. Ça donne une idée.
Et en combien de temps ?
Ah, mais 850 dollars l'once, c'est 1980.
Donc, en 7 ans, oui. L'or va multiplier sa valeur par, il faudrait faire 25, 30, quoi.
Oui, à peu près. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait un retard énorme qui avait été accumulé parce que le gouvernement des États-Unis n'est pas un gouvernement auquel vous pouvez demander impunément qu'il paye ses dettes avec une monnaie sérieuse. N'est-ce pas?
C'est en plus, la réserve fédérale est privée, donc...
C'est quand même le pays le plus puissant du monde, donc ça pose quand même des gros problèmes. Mais ça devenait ingérable. En attendant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1933 et 1973, les citoyens américains n'avaient pas le droit de détenir de l'or.
Alors, ils avaient le droit aux bijoux.
Alors, effectivement, il y avait toute une série de... comment dirais-je, de possibilités annexes, qui étaient bien entendu les bijoux. Ensuite, il y avait tout ce qui était l'or professionnel, bon, les dentistes, par exemple, n'est-ce pas ? Et puis, bien entendu, il y avait les bonnets de collection, qui n'étaient pas touchés par cette interdiction de détention. Mais tout ce qui était, ce que nous appelons en France l'or de bourse, c'est-à-dire celui qui est vendu en fonction de son poids...
Le Napoléon, les lingots...
Bien entendu, tout ça, c'était interdit.
Est-ce que c'était interdit dans d'autres pays du monde ?
Alors, tous les pays totalitaires interdisent deux choses, la détention des armes à feu et l'or. C'est une caractéristique...
La détention des armes à feu n'a jamais été interdite en Allemagne sous le national-socialisme. Allez. Je vous précise, parce que vraiment pas. Hein.
Alors,
les gens avaient des armes chez eux.
Alors, dans ce cas, ça ne correspond pas à la définition d'un pays totalitaire, ce qui est un peu...
Et aux États-Unis également, les gens ont le droit d'avoir des armes.
Mais les États-Unis ne sont pas considérés usuellement comme un pays totalitaire.
Mais, je ne sais pas, il y a certaines zones du monde, est-ce qu'il y a une majorité de pays qui autorisent leurs ressortissants à détenir de l'or, ou est-ce qu'il y en a une majorité qui l'interdit, ou c'est à peu près équilibré? Est-ce que c'est une anomalie ou non?
Alors, c'est une anomalie complète.
Par exemple, dans les pays arabes, tout le monde peut détenir
alors,
de l'or.
Là, c'est encore mieux, c'est un phénomène culturel, c'est-à-dire que la richesse réelle, c'est l'or. Le papier, les comptes en banque, etc., c'est très bien. Mais ce n'est pas ce qui est ressenti comme une richesse. Chaque pays, chaque civilisation a une culture de la valeur. Bon, pour prendre un exemple tout à fait anecdotique mais amusant, lorsque vous prenez un billet de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un billet de banque, ça représente habituellement un cochon. Pourquoi ? Parce que chez les Papous, le signe distinctif de richesse, c'est la possession de cochons. Les femmes, par exemple, sont évaluées, dans les cas de rituels de mariage traditionnels, en nombre de cochons. Et donc le billet de banque, sont des kunas, ou des kinas, si mes souvenirs sont bons, représente un cochon. C'est la véritable valeur. Alors, dans les pays arabes, c'est l'or...
C'est pas le cochon.
Certainement pas. C'est l'or qui est la valeur réelle. La valeur dans l'absolu. D'ailleurs, on peut, constater que, par exemple, le statut de la femme est lié, au moment de son mariage, au fait qu'elle va avoir un certain poids de bijoux. Et autre chose également, si vous allez à Dubaï ou dans des pays où il y a vraiment un gros commerce de la bijouterie accessible aux touristes, vous verrez que on vend les bijoux, y compris quand ceux-ci portent des pierres, pas des pierres sérieuses, mais des pierres, ce qu'on appelle des pierres semi-précieuses, c'est littéralement vendu au poids, c'est-à-dire on pèse le bijou pour établir son prix.
Et comment ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France?
L'or
était interdit.
Justement, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de se poser la question de la réaction donc que se passe-t-il en cas de crise gravissime? Et je suis dans le métier depuis une trentaine d'années, mais quand je suis rentré dans le métier, il y avait des anciens qui eux avaient connu les époques...
Les horreurs de l'occupation.
Absolument. Et qui avaient toute une série de souvenirs, etc. Et c'était extrêmement intéressant de voir deux choses. Les deux choses les plus intéressantes sont les suivantes. La première, c'est que les premières estafettes de l'armée allemande à être rentrées dans Paris appartenaient à un service qui était le Devisenschutzkommando, qui s'occupait de récupérer tout ce qui était monnaie réelle. Monnaie réelle, c'était, pour l'époque, des devises étrangères de pays sérieux, dollars, livres sterling, et d'autre part, tout ce qui était or.
Argent.
Moins, parce que le problème de l'argent, c'est que bien entendu...
On en parlera tout à l'heure.
Ça encombre. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, c'est que ça montre quelles étaient les préoccupations fondamentales. Bien entendu, les coffres ont été scellés, tout a été, policé, au sens net du terme. Et alors, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que dans les archives donc de la CGB, on avait retrouvé un petit carnet, un cahier, qui donnait les cours clandestins de cinq monnaies d'or les plus, entre guillemets, populaires. Alors, le Napoléon, la 20 dollars, le 50 pesos, le souverain et la croix suisse, pendant l'occupation. Et alors qu'il était, dans la pratique, complètement interdit de posséder de l'or à ce moment-là. Je crois qu'on avait un droit d'avoir 5 grammes, parce que là, même les bijoux étaient contrôlés, ce qui explique d'ailleurs qu'en Allemagne, il y a eu toute une mode du bijou creux pendant la guerre, parce qu'il fallait absolument avoir le minimum de poids. Or, ce qui est donc très intéressant à voir, c'est que les cours que l'on observe sont absolument effrayants, parce qu'un Napoléon...
C'est des cours en marché noir, en fait.
Ah, mais bien entendu.
Ah, oui, non, mais... Non, parce que vous nous avez dit, par exemple, qu'il n'y avait jamais eu de marché noir aux États-Unis.
Non. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a jamais eu. Je ne connais personne qui m'en ait parlé. Et je crois que dans le Roosevelt a eu une chance énorme, c'est que ça a marché. C'est-à-dire qu'il est... Il a effectivement réussi à remettre l'économie du pays sur pied. Donc, tout ce qu'il avait fait autour, qui pouvait être considéré comme, entre guillemets, économiquement liberticide lui a été amplement pardonné. Et le dollar, c'était « as good as gold », aussi bon que l'or. Et ça a été vrai jusqu'en 73.
Et donc en France, il y a un marché noir.
Alors, hein, pendant la guerre, il y a un marché noir, et alors on a une multiplication du cours du Napoléon par approximativement 40. C'est-à-dire qu'entre le cours du Napoléon en 1938, par exemple, et celui en 42-43, on passe de 130 francs à 5300 francs. Donc, on sent bien là tout ce que l'or peut être comme valeur refuge dans une situation de crise terrible.
Ça permet de vivre très bien si on en a un peu.
Alors, il y a...
Et beaucoup mieux que quelques mois auparavant.
Oui, à condition, effectivement, de faire un peu de marché noir. Bien entendu.
Bon. Très bien. Donc, je crois qu'on a un peu posé la question, un peu posé le problème déjà de la légalité. Alors... On revient donc à 1973, donc, on abandonne, je vais pas dire parce qu'il y a un auditeur qui nous reproche d'employer les expressions entre guillemets pour dollar flottant,
oui.
Qui explique que ça ne veut rien dire.
Non, c'est exact.
C'est parce que c'est un résumé d'une expression générique.
Alors, bon. Sur ce problème de flottant, etc., je vais juste vous donner une anecdote qui va bien expliquer les choses. Lorsqu'on me demande est-ce que l'or va continuer de monter, je réponds régulièrement non, mais le papier va continuer de descendre. Ce que je veux dire par là, c'est que le lien entre les deux, l'or est fixe. Ce qui bouge en réalité, c'est le papier. Lorsque l'on vous dit un lingot vaut 8000 euros et que 4 ans après on vous dit un lingot vaut 23000 euros, le lingot, il est toujours le même, mais la quantité de papier qu'il faut pour l'acheter a été largement augmenté. Et c'est ça, en réalité, le problème est du côté du papier, il n'est pas du côté de l'or. Donc, effectivement, le terme de flottant est impropre, parce que on devrait prendre l'habitude de considérer l'or comme le point de référence, et non pas la quantité de papier qu'on demande en échange.
Oui, mais c'est pas l'or qui est la monnaie pivot mondiale, c'est le dollar, et donc le dollar peut flotter, puisque c'est la théorie des N-1 monnaie, il n'y a qu'une monnaie qui peut être... qu'elle soit basse ou haute, n'a absolument aucune importance, puisque toutes les autres monnaies du monde se définissent par rapport à une monnaie, puisque bon, quand c'était par rapport à l'or, c'était simple, puisque tous les pays du monde pouvaient se définir par l'or, parce qu'il y en a partout. Le dollar n'est détenu, enfin, à l'origine, que par les Américains. En tout cas, il est produit par les États-Unis.
Le terme produit est parfaitement exact.
Oui, parce que c'est bon. Avec l'expression impropre de la planche à billets. Donc, en 73, on décroche complètement. Il y a une déconnexion totale entre l'or et le dollar.
Absolument.
Est-ce que c'est le dernier pays du monde à faire ça, ou ça existait dans d'autres pays ou non?
Non, l'Union soviétique, bien évidemment, avait un statut de l'or extrêmement particulier. La Chine avait un statut qui était extrêmement imprécis, et où ça serait extrêmement intéressant de savoir exactement comment ça s'est passé, et juridiquement comment ça s'est passé. Mais en tout cas, aujourd'hui, la question de la liberté de possession de l'or est une question centrale, parce que si les gens commencent à perdre confiance dans le papier, la question de la confiance dans l'or, donc de l'achat d'or, va se poser d'une manière absolument centrale.
Alors, on a une petite question, d'ailleurs, à propos de l'Union soviétique, enfin, une question connexe, mais...
Est-il exact que pendant la guerre d'Espagne, toute la réserve d'or de ce pays a été livrée aux soviétiques?
Alors, c'est effectivement ce que j'ai lu dans des livres tout à fait sérieux, et effectivement, le gouvernement espagnol avait voulu mettre en sécurité l'or de la banque centrale dans un pays qui voudrait bien l'accepter, et malheureusement, je crois qu'il y est toujours. Ben, je n'ai pas de précision de ça.
Alors, comment ça se passe depuis 73?
Alors, depuis 73, le marché donc, est l'or a une théoriquement valeur... libre. Mais, nous constatons que, curieusement, les cours de l'or restent extrêmement raisonnables par rapport à ce que l'on pourrait penser qu'il devrait être, compte tenu de la situation.
Non, mais même, attendez, même compte tenu, je parle même pas de la situation actuelle.
Mais bon. je parle pas non plus de la situation actuelle.
C'est qu'on peut, parce que tous les, bon, on parle toujours de valeur refuge, mais il y a un grand reproche souvent qui est fait à cette expression, par les conseillers financiers, par les gens qui sont spécialisés dans les placements, c'est que en valeur réelle, l'or n'a pas cessé de baisser pratiquement depuis, je sais pas, 25 ans. Alors on peut dire que l'or n'est pas assez cher. Il y a d'autres gens qui vous disent, ah ben non, ça n'augmente pas, il perd de sa valeur. Est-ce que vous pouvez retracer un petit peu, avec quelques chiffres, peut-être l'histoire de l'or, en gros, depuis 30 ans, quoi. Est-ce que l'or a augmenté à certains moments, baissé à d'autres?
Alors, quand on part de 73 et qu'on arrive à 1980 avec un sommet. Bon, pourquoi y a-t-il un sommet en 1980? Ben, il y a un sommet parce que les gens n'ont plus confiance, parce qu'il y a une inflation qui est massive, et parce qu'il y a des quantités d'argent invraisemblables qui sont injectées dans l'économie mondiale.
Ouais, il faut rappeler qu'à l'époque, l'inflation en France, donc, les jeunes vont sauter au plafond, mais c'était 15%. C'est-à-dire que tous les mois, si on n'arrivait pas à placer son argent ou si on le dépensait pas, on perdait plus d'un pour cent par mois.
Absolument.
C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait s'acheter, je sais pas, une baguette de pain, et à la fin de l'année, on pouvait s'acheter deux tiers de baguette de pain.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis arrivé dans le métier de l'or à cette période, et effectivement, il y avait une fuite devant le papier. Et qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui. C'est très curieux, parce que aujourd'hui, on a en réalité une augmentation des masses monétaires, même dans la zone euro, qui est très élevée, qui est très forte. Il y a énormément d'argent papier qui est produit, et on ne voit pas du tout en face des gens fuir, entre guillemets, le papier. Et pour nous, c'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors que la masse monétaire augmente, grosso modo de 10% par an, alors que les Américains en sont au point où ils ne donnent même plus leur chiffre de M3, c'est-à-dire donc leur masse monétaire consolidée.
Oui, j'en avais parlé dans les documents, ils ont arrêté il y a peu, 2 ou 3 ans.
Tout à fait.
On n'a plus aucun chiffre sur la masse monétaire américaine.
On peut la reculer.
Oui, oui.
On peut essayer
d'une manière
de recalculer,
très complexe.
Mais, et lorsqu'il... Donc, nous ne comprenons pas, enfin, je parle sur un plan marchand d'or, entre guillemets, nous ne comprenons pas pourquoi les cours sont aussi bas. Alors, il y a des théories conspirationnistes qui sont malheureusement apparemment bien étayées, qui viennent des États-Unis et qui prétendent que la Réserve fédérale et un certain nombre de banques centrales ont comme préoccupation numéro un de faire baisser le cours de l'or, alors principalement en faisant des prêts d'or physique, ce qui permet de le conserver dans les comptabilités comme étant toujours là, mais en réalité cet or physique est prêté à des banques commerciales qui le vendent. Et il y a eu manifestement, cette politique a été suivie pendant très longtemps, ce qui a permis de déverser du physique, de l'or physique sur le marché. Mais là encore, les gouvernements prétendent que ce n'est évidemment pas le cas. Pourtant, les États-Unis ont eu, il y a eu un procès qui a été fait par un marchand d'or américain qui a attaqué le gouvernement des États-Unis en disant que les manipulations des cours par le gouvernement lui avaient fait perdre énormément d'argent. Bon. Alors, on a eu à cette occasion la preuve que effectivement un certain nombre de courtiers a fait par exemple de la vente sans détenir le métal, des ventes à découvert, et que ils se considéraient comme, entre guillemets, couverts par le gouvernement. Et le procès n'a rien donné pour notre confrère américain. Il l'a perdu. Et ça a été considéré comme étant du domaine de la politique. Et absolument pas du domaine du droit commun.
Oui, mais il y a une chose que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que vous avez un prix de l'or actuellement en France. Je crois que c'était
Non,
c'était à 910 dollars.
Oui, mais il n'y a plus de prix de l'or officiel en France. Oui. Il y a simplement la corrélation que l'on peut faire avec le cours de l'euro et le cours de l'or à Chicago, à Londres, etc. Mais il n'y a plus de cours officiel en France.
Oui, non, mais je veux dire, mais c'est une espèce quand même de micro-marché. Parce qu'il y a peu de ventes, en fait, physiques, réelles.
Alors,
ce qui est très particulier, c'est que si vous vous rendez... Enfin, si je veux rencontrer d'autres numismates, etc. Si vous vous rendez chez un marchand d'or, Et vous dites, par exemple, aujourd'hui, l'or vaut 910 dollars l'once. L'once, c'est à peu près 45
non, 4 c'est grammes. 31
grammes. 31 grammes. Voilà. Je suis pas familier avec les,
non, non.
Les poids et mesures américains. Bon, donc 31 grammes. Non. Oui, parce que vous allez me dire que c'est très précis, l'once, ça correspond à quelque chose d'intelligent.
C'est qu'en réalité, c'est un système de poids d'avant la Révolution, c'est-à-dire un poids non décimal. C'est le système royal, européen.
D'accord. Donc, quand vous rendez actuellement chez un numismate, enfin, c'est un marchand d'or pour en acheter, vous dites, bon, bah tiens, 910, bon, j'apporte 9100 euros, donc vous allez me donner un certain nombre d'ondes. Et systématiquement, on vous dit, on n'en a pas.
Exact.
C'est exact. Parce que ce que je vous dis, c'est que, tout à fait, bon, j'ai toute une série d'exemples, les gens vous disent, ils n'en ont pas.
C'est exact.
Bon. Et vous vous dites, je vais aller, par exemple, sur eBay.
Exact.
Il y a un site de vente par Internet. On se dit, comme il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, on va peut-être, il y a des maisons de professionnels dans le monde entier. Et ce qui est tout, absolument, moi, ce qui me paraît absolument sidérant, c'est que vous pouvez en acheter sur eBay. Mais que sur eBay, il est 25% plus cher que le cours officiel. Alors, est-ce que le cours officiel ne serait pas manipulé ?
Et alors, ça, c'est la grande question. Mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous avez un cours de référence. Mais ce cours de référence est, entre guillemets, un cours industriel. Lorsque l'on commence à vouloir avoir une pièce, par exemple, là, on rentre dans des négociations de gré à gré. C'est pour ça que je vous disais, en France, il n'y a plus de cours officiel des pièces. C'est-à-dire, si la firme X a décidé de vendre le Napoléon 150 et que vous êtes d'accord pour payer le Napoléon 150, l'opération va se faire à 150. Mais en revanche, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous n'en achèterez pas à cette firme. Vous en chercherez une qui c'est littéralement l'offre et la demande. Il n'y a pas un marché au sens, je dirais, organisé.
Donc cette référence qui est donnée ne représente strictement rien.
Si. Si vous êtes un intervenant avec un nombre X de millions d'euros, là, vous allez effectivement pouvoir avoir accès à ce type de marché, puis surtout, si vous avez possibilité de travailler sur le marché américain ou le marché anglais. Vous pouvez, alors, bien entendu, je précise, nous ne parlons là que d'or physique, c'est-à-dire que l'on prend, qu'on met dans sa poche et on sort avec. En aucun cas d'or papier, qui lui existe sous toute une série de formes, et alors là, au contraire, où le marché est très bien organisé.
Alors c'est quoi l'or papier ?
Alors l'or papier, ça peut être...
C'est des actions de mine d'or,
je sais pas ? Il y a ça comme hypothèse, mais il y a surtout ce qu'on appelle les ETF, c'est-à-dire en gros, ce sont des sociétés qui ont un bureau, un énorme coffre, un téléphone et un compte en banque, et qui vont se charger d'acheter pour vous de l'or et de le ranger dans leur coffre. Le résultat, c'est que vous êtes...
Madoff. Le résultat, c'est Madoff.
Oui,
non, je ne sais pas, non.
Alors, ça,
faut vraiment leur faire confiance, surtout qu'en plus, ils doivent pas... quand vous êtes en France, on ne doit pas acheter dans une société qui est en France, je suppose.
Non, enfin, alors,
je
sais pas. Alors,
il faut faire vraiment confiance à quelqu'un que vous n'avez sans doute jamais vu.
Non, mais tout à fait. Mais enfin, ces fonds sont gérés habituellement par des banques. Ils présentent quand même un maximum de garanties de sécurité, à supposer effectivement qu'il n'y ait pas une madoffisation imaginable. En attendant, là, c'est de l'or papier. C'est-à-dire, vous avez un titre de, entre guillemets, on pourrait appeler ça une créance sur quelqu'un qui détient de l'or pour vous et qui l'a, qui le détient sous une forme physique. C'est-à-dire que vous allez effectivement avoir un papier qui représente de l'or physique.
Et vous pouvez le récupérer un jour cet or ou non ?
Alors ça dépend des statuts des différentes sociétés. Je ne connais personne qui ait jamais essayé.
Mais c'est incroyable. Vous vendez du papier pour acheter de l'or, vous retrouvez avec du papier.
Oui, effectivement. Mais c'est pas plus incroyable que d'avoir un compte en banque avec 500 000 euros dessus.
Bon, très bien. Alors, actuellement. Ça fonctionne comment l'or là ? La variation des cours, parce qu'il y a un moment où ça avait beaucoup monté, ça, on avait atteint 1000 dollars l'once.
Oui.
Hein ? Je suis désolé, on parle de dollars et d'once, mais on parle pas d'euros et de grammes, parce que c'est pas le système mondial de référence.
De la même manière que pour le diamant, vous allez parler en carats et non pas en grammes.
Et donc, et actuellement, là, ça a baissé, je crois, dans les 900...
On est à 898.
898
dollars par once.
Comment vous, marchand, qui avez des, je sais pas, des milliers de clients, qui avez une vue assez générale sur la question, etc., comment vous expliquez que, parce que juste là, on pourrait dire, en période de crise, on se précipite sur l'or.
Alors justement,
et aujourd'hui,
ça c'est une
pas
chose
du tout.
C'est une chose qui nous stupéfie, c'est-à-dire que les gens dont nous entendons, qu'ils ont acheté de l'or ou qu'ils vont acheter de l'or ou X, sont habituellement des gens qui sont très riches et qui habituellement n'achètent pas par un Napoléon ou deux Napoléons. Bon. Et nous sommes extrêmement étonnés, par comparaison justement avec 1980, de constater que Monsieur Dupont n'achète pas d'or. Monsieur Dupont ne semble même pas considérer que ça peut avoir un intérêt d'acheter de l'or. Alors, il y a deux observations possibles. La première, c'est donc que Monsieur Dupont a confiance dans l'économie de son pays. C'est très bien de sa part, parce qu'effectivement, s'il avait moins confiance, l'économie irait encore plus mal, donc c'est très bien. Mais d'un autre côté, il est possible que le jour où Monsieur Dupont va se réveiller, si l'économie continue à aller mal, là, les cours d'aujourd'hui vont apparaître comme extrêmement bon marché. Et effectivement, ce que l'on a constaté dans la période 1973-1980, c'est qu'il y a eu un emballement à partir du moment où, entre guillemets, M. Dupont, M. Smith, etc., se sont mis à acheter. Par petite quantité, mais M. Dupont est extrêmement nombreux. N'est-ce pas? Donc, 50 Napoléons par-ci multipliés par 200 000 personnes, ça fait des...
Oui, mais vous dites qu'il n'y en a pas à vendre.
Ah non, alors justement, il y en aura à vendre le jour où les cours auront suffisamment monté pour qu'il y ait effectivement sortie de matériel sur le marché. Aujourd'hui...
Les gens thésaurisent, en fait.
Alors, on a l'impression... Non, c'est plus compliqué. On a l'impression que
les marchands
ont beaucoup vendu...
C'est la disette organisée.
Pas du tout, pas du tout. On pense qu'on a l'impression que les gens ont beaucoup vendu entre 1980 et grosso modo 2003, où il y a eu une baisse épouvantable des cours de l'or, et que les gens ont vendu tout simplement parce qu'ils avaient besoin de vendre. Mais depuis, on a l'impression que les gens qui ont encore de l'or n'ont absolument pas besoin de vendre, ils n'ont pas de problème d'argent. Ça a toujours été la doctrine chez nous de dire à nos clients, ne vendez votre or que si vous en avez réellement besoin. Et ne faites surtout pas de la spéculation en vous disant, ça vaut cher aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais combien ça vaudra demain. Donc quand on vend de l'or, parce qu'on en a besoin, mais que ça soit pour marier les enfants, ou pour réparer le toit, ou pour acheter une maison, on transforme une valeur réelle en une valeur réelle. Alors que lorsque l'on vend de l'or pour avoir du papier, on prend un risque évident qui est de que le papier redevienne du papier. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui ont de l'or n'ont pas besoin de le vendre. Et que les gens qui n'en ont pas n'ont pas encore pensé que c'était intéressant d'en acheter. Si les cours montent, c'est plutôt au niveau international qu'au niveau français. Nous, ce que nous observons en France, c'est un désintérêt assez général pour l'or.
Donc, c'est plus le bas de laine de la grand-mère dont on parlait avant, les Napoléons qui étaient mis dans les pieds du lit.
Peut-être que si, mais peut-être que la grand-mère n'a pas besoin de vendre ces Napoléons. Et peut-être que les petits-enfants, sachant que la grand-mère en a, n'ont pas envie d'en acheter. On ne sait pas.
Mais il y a d'autres pays qui ont un engouement. Je pense à la Chine notamment.
Alors, les pays qui culturellement sont acheteurs d'or, c'est-à-dire Moyen-Orient, Inde, Extrême-Orient, sont effectivement...
Dont la Chine.
Bien entendu. Mais le cas de la Chine est particulier parce qu'en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si le gouvernement chinois achète de l'or. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas qui sont les intervenants. C'est loin, l'Extrême-Orient. Et tous ces circuits-là sont quand même extrêmement opaques. Bon, ce que l'on sait en revanche, c'est que la demande au niveau de la population est une demande qui est constante et régulière. Et là, les récemment...
Bah déjà, si chaque Chinois avait une alliance aux doigts...
Ça serait intéressant.
Ça ferait quelques tonnes d'or.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour donner un chiffre intéressant, on a fait on a eu des articles de journaux assez alarmistes. Les hindous trouvent que l'or est trop cher. Bon, pourquoi ? Parce que les hindous sont culturellement acheteurs d'or. Là aussi, il y a un problème de thésaurisation qui est depuis des millénaires normal. L'Inde, c'est, on estime,
le coffre-fort,
50 000 tonnes d'or dans la population. C'est gigantesque. L'Inde est un pays de référence.
Il y a combien d'or produit dans le monde?
Alors, on sait pas très bien. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais on pense que ça devrait être aux alentours de 300 000 tonnes, peut-être.
Ah oui, et l'Inde en aurait 50 000, au moins.
On sait. Attendez, tout cela, c'est totalement opaque. C'est comme la légende qui veut que les Français aient entre 3 et 5 000 tonnes. Ça fait longtemps qu'on attend de les voir passer, qu'on ne les voit pas passer. Donc, si les Français ont effectivement autant d'or, ils ne sortent pas. En tout cas, en ce qui concerne l'Inde, il faut bien visualiser ce que représentent 50 000 tonnes d'or. C'est beaucoup, d'une part, mais d'un autre côté, c'est rien du tout si vous comparez, par exemple, avec le déficit ou l'endettement des États-Unis. C'est rien. C'est une goutte d'eau. Donc, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde parle de l'or, valeur refuge, mais si jamais on devait transformer tout le papier du monde en or, alors je n'ose même pas imaginer le nombre de zéros qu'il faudrait mettre à l'once. Ce n'est même pas pensable.
Oui, tout ça, c'est une question de confiance, en réalité.
Absolument, nous sommes...
Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que malgré, on peut dire quand même, une crise et une perte de confiance évidente, on a parlé de gens qui étaient allés retirer leur argent des banques, en fait, etc. Bon, en tout cas, pour le moment, ils ne l'ont pas transformé en or.
Non, effectivement.
Et l'or n'a pas augmenté... Il n'y a pas eu de forte tension sur le marché de l'or ces 6 derniers mois.
Alors, il y a effectivement une hausse qui est indiscutable. Il y a le fait qu'aux États-Unis, par exemple, la US Mint, donc l'atelier monétaire américain qui fabrique des pièces d'or et qui sont vendues au poids, a été en rupture de stock. Donc, effectivement, si on interroge les fabricants de lingotins, etc., etc., tous ces gens vous disent qu'ils travaillent 24 heures par jour pour produire, mais ça ne représente pas néanmoins des sommes ou des mouvements
des quantités
tels que
importants.
Ceux que moi j'ai vus en 1980 en France, où là, il y avait vraiment un mouvement de masse, de gens, je veux pas dire qu'on avait la queue dans la rue, mais c'était quasiment ça, pour acheter. Et il y avait une fuite devant la monnaie papier, que je ne constate absolument pas aujourd'hui.
Donc vous, enfin bon, d'une certaine manière, bon, vous êtes très circonspect donc sur l'or valeur refuge.
Alors, je ne suis pas circonspect du tout à moyen et long terme, dans la mesure où, moyen et long terme, le papier, ça sera toujours du papier, et l'or, ça sera toujours de l'or. C'est-à-dire que quand quelqu'un va réfléchir à l'échelon d'une génération, d'une transmission de patrimoine, par exemple, il est bien évident que l'or permet de dormir sur ses deux oreilles. En revanche, à très court terme, on ne peut pas exclure que... Alors, s'agit-il de manipulation de cours? S'agit-il d'espoir insensé que les cours de bourse remontent? S'agit-il de manipulation plus ou moins médiatique, de tenter de donner confiance? Il n'est pas exclu que l'or perde encore 100 dollars l'once. Mais à moyen et long terme, la messe est dite. Il y a beaucoup trop de papier. Ça n'a plus aucun sens. Et la seule manière, d'autre part, dont on peut se débarrasser de la plaie du système monétaire mondial, qui est la dette, les dettes, qu'il s'agisse des dettes des particuliers, qu'il s'agisse des dettes des États, la seule manière de se débarrasser des dettes, ça on le sait depuis quelques millénaires, c'est de faire de l'inflation. Or, effectivement, on est bien parti pour faire de l'inflation avec une production... Production monétaire totalement inconsidérée, et donc l'or, de toute façon, retrouvera son statut. Mais c'est pas l'or qui va bouger, c'est le papier qui va descendre.
Et alors, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un retour en force de l'or, enfin je dirais comme valeur refuge, Il n'y a pas d'engouement. Vous avez peu de visites pour ça dans vos magasins.
On a relativement peu de visites, et d'autant plus. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que nous faisons un journal sur Internet qui est un gratuit que l'on télécharge. C'est un PDF sur notre site internet, donc acgb.fr, et où effectivement on rappelle aux gens que l'histoire nous montre que quand on fabrique des assignats, eh bien ça finit toujours par être valeur papier. On rappelle que des hyperinflations, c'est pas la peine d'aller au Zimbabwe pour aller en voir une, que en Allemagne en 1923, un œuf coûtait 150 millions de marques. Alors que 8 ans avant, lorsque le professeur Einstein prend son poste de professeur, son premier poste, il est payé 2000 marques par an. Et 8 ans après, un œuf, c'est 150 millions. Ça, c'est une hyperinflation.
C'est comme au Zimbabwe en ce moment.
Exactement. Si ce n'est que c'était en Europe, et que donc c'était quasiment avec des théories économiques tout à fait standards, alors que celle de le ministre des Finances du Zimbabwe semble un petit peu hétérodoxe.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que je reçois donc Michel Prieur, qui est numismate et qui est directeur de la CGB, qui est à Paris. Rue Vivienne, dans le quartier dans cette rue, je sais pas pourquoi, mais il y a la moitié des boutiques, c'est des marchands. Vous êtes agglutinés ou c'est une vieille tradition?
Alors, c'est une vieille tradition.
Ah, vous êtes à côté de ce qui était la bourse avant.
Et ce qui était, effectivement, la bourse avant la bourse, qui se trouvait au Palais Royal. Mmh. Donc, historiquement, les changeurs d'argent, les changeurs de métaux sont rue Vivienne.
Voilà. Alors, on va passer la parole à Françoise, parce qu'on a toute une série de questions, bon, pas toujours en rapport avec l'émission, là. Il y a des gens qui se plaignent qu'on lise pas leur message, bon, pourtant, vous en lisez beaucoup quand même pendant l'émission.
Oui.
Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Radio Courtoisie, on lit pas les messages, ben, on peut pas tout lire, parce que sinon, on ne ferait que lire des messages.
Voilà. Alors, d'un auditeur, précision technique sur le carat. Pour l'or, c'est un pourcentage. L'or pur est à 24 carats, l'or légal est à 18 carats, soit 75% d'or. En joaillerie, le carat est un poids, il correspond à 2 décigrammes. Le nom vient de la graine de caroube, 2 décigrammes égale une graine. Alors ensuite, c'est d'une auditrice. Pouvez-vous préciser si les Français ont le droit d'avoir de l'or en barre?
On dirait plutôt des lingots ou des lingotins.
Non. L'or en barre, ça a un sens très précis. On appelle une barre d'or un lingot de 12,5 kilos. Alors, à ma connaissance, la détention en est autorisée, mais c'est à déconseiller. Alors, on ne peut pas déconseiller plus que ça d'avoir de l'or sous cette forme, pour une raison très simple. C'est que c'est invendable en dehors du circuit bancaire et qu'ensuite, pratiquement, on est à la limite de les faire refondre systématiquement. Moi, j'en ai vu 2 en 30 ans. On est à la limite de les faire refondre systématiquement tellement on peut avoir peur que la barre ne soit pas homogène. Disons que quelqu'un ait mis dedans
du plomb.
Du tungstène.
Tungstène.
C'est le tungstène qui est utilisé pour ça.
Voilà, mais ce que vous vouliez dire, c'est invendable, c'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un interlocuteur au marché noir qui est capable de vous régler une barre de 25 kilos d'or. Quoi.
Ça, il est parfaitement exact que si on doit penser marché noir, on doit impérativement penser pièce, et en aucun cas lingot.
Mmh. Alors, auditeur, parallèlement à tout ce qui se passe sur Terre au niveau du marché de l'or, qu'en est-il de la recherche de l'or dans l'espace?
Alors, soyons pratiques. La recherche de l'or, ça tient avant tout à un coût d'extraction. Bon, alors, inutile d'aller le chercher dans l'espace. Il y a de l'or en quantité très importante, beaucoup plus près de nous, à savoir dans les océans. Il y a dans 1 km cube d'eau de mer, 4 tonnes d'or. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus que 4 tonnes d'or de faire bouillir 1 km cube d'eau d'océan et d'aller extraire les 4 tonnes d'or. Donc, c'est pas demain la veille que l'on va extraire de l'or des océans. Néanmoins, c'est là qu'il se trouve. Là, à ma connaissance, la plus grande quantité d'or sur Terre est dans les océans.
D'une auditrice, est-il vrai que M. Sarkozy, ministre des Finances, quand il était ministre des Finances, a transféré l'or de la Banque de France à Francfort?
Alors, non, c'est plus compliqué. L'or de la Banque de France fait partie de ce qui garantit l'euro. Avec l'or de toutes les banques centrales de la zone euro. Mais cet or le garantit l'euro de la même manière que les possessions en devises vont garantir l'euro. J'entends, ce n'est plus un problème physique, c'est un problème juridique. Et à ma connaissance, physiquement, il est toujours à la Banque de France. Mais je dois admettre n'avoir jamais été regardé, et pour cause.
D'un autre auditeur, excellent exposé, clair, précis, vrai et intelligent, modèle.
Merci.
Quel plaisir d'entendre un homme qui connaît son métier, qui l'aime et qui sait s'exprimer avec aisance, sans parler des informations qu'il nous donne à l'appel. Merci monsieur.
Merci. C'est toujours aimable plutôt que de recevoir des messages un peu durs. Donc, vous nous dites qu'en fait, le commerce de l'or, enfin on peut dire, y compris même les réserves d'or, ça n'est pas grand-chose par rapport au déficit des États
mais le problème est là.
Et de certaines de grandes entreprises mondiales. Alors, ce que j'aurais que vous me dites, oui. Enfin, je ne sais pas, faisons une hypothèse, enfin, je ne sais pas si ça y est, mais est-ce qu'on pourrait supposer que, un peu comme pour le, je ne sais pas si c'est le même cas, mais le marché du pétrole, où on sait très bien que le cours du pétrole se fixe essentiellement à partir du marché spot, qui est un marché spéculatif qui joue sur entre 5 et 10% de la consommation globale de pétrole dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, tout est à peu près équilibré, mais si la Chine a besoin de pétrole, si l'Europe a froid parce que l'hiver est plus dur, le pétrole va beaucoup augmenter parce que la quantité de pétrole résiduel disponible, bon, ça coûte 10%. Est-ce qu'on pourrait en penser, par exemple, comment se fait-il qu'aucune entreprise de renom dans le monde, je ne sais pas, ou même un État, n'est jamais spéculé sur l'or. Vous voyez, enfin, depuis peu de temps, bon, on ne va pas revenir aux conquêtes espagnoles, etc.
Nous ne le savons pas.
Ben, le prix de l'or n'augmente pas.
Non, mais attendez, nous ne le savons pas. Je m'explique. Lorsque, par exemple, les Pays-Bas ont une politique de déthésaurisation, c'est-à-dire la Banque centrale des Pays-Bas vend de l'or. Bon. Elle en a parfaitement le droit. Mais quand elle vend de l'or, elle l'annonce après l'avoir vendu. C'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas faire des opérations sur la place publique. Parce qu'à ce moment-là, votre opération elle-même va influer sur les cours. Donc tout ceci se passe évidemment d'une manière tout à fait discrète. Et il existe des sociétés spécialisées dont le travail est d'essayer de savoir où est l'or, où va l'or, et d'essayer de prévoir quels vont être les besoins, quelles vont être les tendances, etc. Et j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer ces gens qui sont des Anglais. Bon, c'est très impressionnant parce que ils sont extrêmement pragmatiques et ils prennent en compte, littéralement, pays par pays, la taille du marché noir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout se préoccuper de chiffres officiels, ils vont vraiment essayer de recalculer en allant dans les pays, voir comment ça se passe en réalité. Et les chiffres qu'ils donnent montrent d'abord qu'il y a un retour de la thésaurisation, c'est-à-dire que les achats d'investisseurs augmentent très lourdement, que la production, elle, diminue, et que la récupération est assez stable. Donc on va effectivement vers une baisse des quantités produites, donc théoriquement une quantité d'or disponible sur le marché moins grande. Mais il faut bien comprendre également que l'or se fixe sur, comme vous l'avez dit, donc un marché boursier, et qu'on considère que sur ces marchés, il n'y a qu'1% des opérations traitées qui se concluent par une livraison physique. Donc, il est parfaitement clair que le cours que vous voyez, par exemple, 898 dollars l'once, aujourd'hui, il a été fabriqué par 99% de spéculateurs et 1% d'acheteurs ou de vendeurs réels. Donc, évidemment, c'est énormément de vent.
Alors, après, il y a des spéculateurs qui jouent à la baisse ou à la hausse.
Absolument.
Et qui ne verseront que la différence. Mais je vois trois semaines dans un, ça va monter.
Absolument.
Et ils n'achèteront jamais cet or.
Mais cela veut dire, dans la pratique, que si M. Dupont, lui, veut être livré, il a contre lui, pour faire bouger les cours dans un sens ou dans l'autre, 99% du marché. Donc, le cours que l'on voit aujourd'hui, c'est le cours, entre guillemets, des spéculateurs, et il n'y aura que le jour où messieurs Dupont, Smith, etc., seront suffisamment nombreux, c'est-à-dire les petits acheteurs seront suffisamment nombreux, pour qu'il y ait une véritable influence sur les cours, que le public soit plus fort que les spéculateurs. Et ça, nous n'y sommes pas.
Bon, et alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette affaire extraordinaire qui est quand même peu connue en France. C'est que il y a eu deux frères, les frères Bunker, je crois,
oui,
qui avaient un nom superbe. Qui, non, mais qui est une histoire, je trouve, formidable, parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas connu en France.
Bunker, c'est l'un de ses prénoms, il s'appelait Hunt.
Ah oui, Bunker, ouais. Hunt.
Hunt.
Bunker, ouais. Hunt.
Alors,
bon, c'est les frères Hunt, et oui, eux, ils ont décidé, l'or était racheté, racheter tout leur produit dans le monde était trop compliqué parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, et donc, d'argent, de monnaie de papier, et donc ils se sont dit, ils vont acheter de l'argent.
Alors, il y a une expression qui est, en jargon boursier américain, qui est mettre en corner un marché, mettre en coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un marché où on a l'habitude qu'il y a 1% de livraison physique et 99% de tractation purement financière, c'est-à-dire vous avez gagné, on vous donne de l'argent, vous avez perdu, vous en donnez, mais personne ne va vous donner du métal ou vous demander du métal, ils se sont dit qu'ils allaient, eux, lever de l'argent et se faire livrer.
De lever de l'argent, c'est-à-dire du métal-argent.
Alors, et de lever de l'argent papier pour acheter du métal-argent, le mettre dans un coffre, et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'acheter tout l'argent disponible possible. Et évidemment, lorsque...
Dans le monde.
Dans le monde.
Et ça s'est passé vers quelle année?
1980.
1980, donc il n'y a pas il y a très longtemps, quoi. Il y a un peu moins de 30 ans, quoi.
Il n'y a pas très longtemps. Et alors, leur idée était extrêmement simple, c'était que les gens qui spéculaient sur l'argent n'avaient en réalité pas la moindre idée d'où ils pourraient bien acheter les centaines de milliers ou millions d'onces qu'ils avaient fictivement achetées ou vendues. Et donc, évidemment, lorsqu'ils ont réclamé qu'on leur livre le métal, eh bien, les gens à qui ils l'ont réclamé, ils auraient bien voulu payer de l'argent, mais on l'a...
Du papier monnaie.
Du papier monnaie, excusez-moi. Oui, vous avez raison, c'est... on parle de silver dans ces cas-là, quand on parle
du métal. Oui, mais il faut pas, on nous dit merci de traduire les termes anglais, donc d'accord. Silver veut dire argent.
Bien, je vais surveiller qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, bien évidemment, si le cours était, par exemple, à 100, et que l'on demandait à être livré, qui pouvait fournir... demandait beaucoup plus. Et les stocks qu'avaient constitués les frères Hunt augmentaient de valeur. Malheureusement, pour eux, il y a eu deux problèmes. Le premier problème, c'est que les cours sont passés de mémoire de $5 à $35 l'once, ce qui était monstrueux.
Multiplié par 7.
Oui, ce qui était monstrueux. Bon, par exemple, ça a obligé le gouvernement français à arrêter de frapper des pièces d'argent. Parce que le contenu métallique de la pièce de 5 francs semeuse était passé, je crois, à 30 francs. Donc il n'était même plus question de frapper dans ces conditions-là. Et il y a de l'argent métal qui s'est mis à se déverser sur le marché en arrivant littéralement de partout. Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement...
C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui thésaurisaient se sont dit, c'est le moment de vendre.
Absolument. Et là, effectivement, les cours étaient tellement délirants que, bon, on a vu des sacs de pièces faire l'aller-retour en avion parce que les gens traitaient... Les pièces, c'est très pratique parce que vous savez exactement combien il y a de métal dedans et combien ça pèse. Donc, une simple opération, vous savez que votre sac, qui contient 5000 pièces de 50 francs en argent, va faire tant de kilos d'argent fin. Et il y a des gens qui donc ont vendu des pièces, qui n'ont même pas pris le temps de les faire fondre. Elles sont littéralement parties sous cette forme-là. Et quand le marché s'est effondré, elles sont revenues, elles étaient encore dans leur sac. Pourquoi le marché s'est-il effondré? Il s'est effondré, alors, bon, il y a beaucoup de mauvaises langues, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est un parlementaire américain qui a fait passer un texte interdisant à une même personne ou entité de détenir plus d'un certain nombre de contrats sur les futurs à la bourse. Et évidemment, comme ça a été accepté aux États-Unis, les frères Hunt se sont retrouvés obligés de vendre tout ce qu'ils avaient qui dépassait cette quantité maximum autorisée. Et donc, ça a effondré complètement le marché.
Et ils ont été ruinés.
Et ils ont perdu 3 milliards de dollars. Je crois qu'il en aurait resté un de ce que leur papa leur avait laissé. Mais bon, c'est une histoire qui est emblématique de ce que l'on peut faire lorsque beaucoup d'argent arrive sur un marché. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que si aujourd'hui 500 000 personnes dans le monde décident chacune d'acheter 1 kilo ou 2 kilos d'or, on va se retrouver avec un étranglement de la liquidité du marché et les cours devraient monter très fortement. Qu'est-ce qui pourrait les décider à faire un tel mouvement? Perte de confiance dans le papier. Ça, pour l'instant, ça ne semble pas être encore arrivé.
Mais on voit donc quand même qu'il y a une espèce d'intervention du gouvernement quand ça commence à devenir dangereux.
Alors, c'est bien la question qui se pose, c'est-à-dire à quel prix de l'or le gouvernement américain va-t-il casser le thermomètre? Moi, je vais donner une idée. Je pense qu'à 1 800 $ l'once, il y aura la même chose qu'en 33, c'est-à-dire que le gouvernement américain interdira la détention. Et de ce fait, les Américains aujourd'hui n'ont pas intérêt à avoir de l'or officiel, à mon avis. Ils ont intérêt à avoir de l'or, entre guillemets, non déclaré. Parce que si jamais le problème se repose, il est bien évident que aujourd'hui une pièce de $20 en or, sa valeur faciale c'est toujours $20, c'est-à-dire 16 €, alors que en réalité ça vaut 750 €. On a là une petite mesure de la perte de valeur du dollar papier par rapport au dollar or.
Alors, quelques messages.
D'un auditeur, il y a une statistique qui n'est jamais publiée. Quelle quantité d'or est déclarée à l'ISF par les particuliers français?
Alors, nous ignorons totalement ce chiffre.
Et de toute façon, Gérald, dans les gens, dans leurs déclarations, disent toujours que le mobilier a été acheté chez IKEA et qu'il ne représente rien, sinon des objets d'art qui échappent à l'impôt sur la fortune.
Alors, il est exact.
Et les bijoux des dames, en général, pratiquement jamais de bijoux. On en a une analyse passée curieux avec le couple présidentiel, puisque il y a eu un cambriolage de Cécilia Sarkozy, enfin ex-Sarkozy, où on lui a volé pour 50 000 euros, je crois, de bijoux. Or, dans la déclaration fiscale de Nicolas Sarkozy, à l'époque il était marié avec elle, il indiquait qu'ils avaient zéro bijou. Bon, alors, M. Richard Ratier, lui a peut-être tout offert.
C'est certainement cela.
Voilà. Bon, mais, bien évidemment. Mais on peut supposer que c'est très sous... Mais est-ce qu'on a une idée du Madeleine? Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Même ça, avec votre expérience, avec ce qui s'est vendu sur des siècles...
Ça, c'est une légende urbaine. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'en 1914... La France, le pays et la population possèdent le quart de l'or monnayé au monde. Ça donne une idée de la richesse de la France avant la première grande guerre civile européenne. Nous étions un pays richissime. Bon. Et ça, c'est un chiffre certain. Depuis, entre... L'or qui a été remis par les Français pour l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale, l'or combat pour la victoire, il y avait des affiches partout. Entre les confiscations qui ont été organisées à l'époque du Front populaire, entre le problème du marché noir et de tout ce qui a pu se faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas. Mais je peux vous donner quand même une expérience personnelle. Quand je suis rentré dans ce métier, on vendait de l'or, puisqu'on était en 1980, donc il y avait beaucoup d'acheteurs. et on vendait toujours nos pièces dans des sachets scellés pour en garantir la qualité. Et donc, on aurait pu, sur les 29 ans qui se sont déroulés depuis 1980, voir revenir ces pièces. On n'a quasiment rien vu revenir. Mais peut-être est-ce que les gens les ont toujours, peut-être est-ce qu'ils les ont vendus ailleurs, peut-être est-ce qu'ils ont ouvert les sachets, on l'ignore. Mais en attendant, ce qu'on a vu revenir, c'est très peu. Alors qu'on aurait pu les reconnaître à cause des petits sachets.
Un auditeur demande, ne pensez-vous que l'or va baisser, les autres matières premières augmentant ? Le cours de l'once est exprimé en dollars, variable par rapport à l'euro. Un point de repère est le lingot et la pièce de 20 francs exprimée en euros.
Alors oui, cette idée, parce que moi, on lit la question de cet auditeur ou cette auditrice, enfin c'est un auditeur, là, mais ce qu'il y a, c'est on voit un certain nombre d'arguments qui sont utilisés en disant, par exemple, oui, actuellement on est en crise, donc toutes les matières premières, notamment les métaux, baissent. Donc le prix de l'or devrait baisser. Ça vous fait penser à quoi ?
Alors, ça me fait penser qu'il y a effectivement une double casquette pour l'or. Il y a d'une part l'or métal industriel, qui est utilisé dans l'industrie, qui est une matière première comme une autre.
On en met même dans les ordinateurs, un petit peu, quelques grammes.
Ensuite, il y a l'or bijoux. Les femmes portent des bijoux en or depuis quelques milliers d'années. À mon avis, ça ne va pas cesser sitôt. Et troisième point, il y a l'or, valeur refuge, thésaurisation. Donc, l'or, le prix final de l'or, joue sur ces trois critères. Évidemment, plus l'or est cher, moins les femmes en achètent des bijoux lourds. Plus l'or est cher, plus l'industrie va essayer d'abord de le recycler, de récupérer, parce que ça vaudra la peine. Et puis, plus elle va essayer d'en diminuer l'usage. Et quant à la thésaurisation, il peut parfaitement y avoir un mécanisme d'entraînement, c'est-à-dire que, ça nous l'avons constaté, le français est quelqu'un qui bien souvent achète alors que ça a déjà beaucoup monté. Moi j'ai...
un des suiveurs.
On peut dire ça comme ça. Moi j'ai dit sur notre site internet en 2003, j'ai recommandé à tout le monde d'acheter 200 Napoléons, de les coller chez soi dans un trou dans le mur et de les oublier, parce que on ne sait jamais, et que ça c'est une assurance absolue contre les risques majeurs. À l'époque, 200 Napoléons, ça devait représenter plus de 10 000 euros. On n'en a jamais vendu. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu et qui a dit, voilà, j'ai lu votre texte, beaucoup de gens m'en ont parlé. Il a été tout à fait lu. Il est toujours en ligne. Mais maintenant, évidemment, 200 Napoléons, ce n'est plus 10 000 euros. C'est nettement plus que ça. Et on n'a jamais eu de gens qui soient venus en disant, voilà, je voudrais, j'ai lu votre texte, je veux acheter 200 Napoléons. C'est très difficile de faire de la publicité pour de l'or.
Un auditeur, le cours de l'or a considérablement augmenté depuis 2 ans. Quel est l'impact de cette augmentation sur la valeur du stock d'or de la Banque de France qui se trouve réévalué d'autant ? La France peut-elle en tirer bénéfice dans les circonstances présentes ?
Non, ça ne, le stock d'or d'un pays, d'abord, ça représente pas grand-chose par rapport à l'économie du pays. Et ensuite, il n'est pas supposé être vendu. Alors, certes, on en a vendu, errare humanum est, pas cher d'ailleurs, mais bon, c'est pas censé être vendu.
D'un autre auditeur, que voulez-vous dire par les futurs de la bourse ?
Oui, les futurs.
Alors ça, c'est très simple. Vous pouvez acheter des matières premières tout de suite, c'est-à-dire vous rentrez, vous donnez de l'argent et on vous donne la matière première, même si c'est un cargo de pétrole, je veux dire, c'est un achat au comptant. Et vous pouvez acheter parce que vous allez avoir besoin de pétrole dans 3 mois. Donc vous allez trouver quelqu'un qui, lui, dans 3 mois, va avoir à vendre du pétrole qui, à ce moment-là, aura été extrait, transporté, etc. Et donc vous allez passer un contrat qui n'est pas tout de suite, mais qui est à terme. C'est ça ce qu'on appelle les futures. Et en ce qui concerne le commerce de l'or, il est, dans son immense majorité, jouer à terme, parce que ça permet aux spéculateurs de prendre des positions sur quelque chose qui n'est pas physique. Donc, de pouvoir jouer beaucoup d'argent sur une mise de départ minime, puisqu'ils ne prennent pas livraison. Et de ce fait, il y a un... Enfin, on ne va pas faire un cours de...
On peut dire que pour l'ensemble du monde...
Il y a un effet de levier énorme.
Cet effet de levier... L'ensemble de cette spéculation mondiale, et sans absolument aucun rapport, la capitalisation boursière des entreprises dans le monde.
Ça n'a aucun rapport.
C'est si mis sur son bon, ce qu'on appelle les futurs, mais on pourrait dire les futurs en français, mais bon, on est déjà, c'est de l'ordre de 50 000 milliards de dollars.
Mais de toute façon.
C'est-à-dire que c'est largement plus que la richesse monde entier.
Mais
c'est une spéculation qui est fictive. Et qui ne jouera que sur la marge.
Bien entendu.
C'est-à-dire que les gens ne paieront jamais, ne vont pas verser 100 au départ pour acheter en se disant on revendra dans... Ils vont verser 5 ou 10.
Et sur ces 100.
Voilà. Ils recevront la différence, c'est-à-dire entre le cours du jour et le cours dans 3 semaines. Mmh. Ils recevront le 3 mois, ils recevront un petit pourcentage, plus ou moins
important.
Ils paieront juste la différence.
Tout à fait.
Ce qui permet d'avoir des sommes absolument colossales avec cet effet de levier.
Tout à fait. Et que l'on ne pourrait pas avoir avec, effectivement, un achat au comptant, puisque là, on prend livraison. Donc, évidemment, le monsieur en face demande que l'on paye. Tout.
D'un autre auditeur, pouvez-vous affirmer que la France était plus riche que l'Allemagne avant 1914 ?
Alors, ça dépend ce qu'on considère comme être plus riche, mais théoriquement, oui.
Et un autre auditeur, émission forte intéressante, pouvez-vous nous parler de la prime des pièces d'or ?
Alors, la prime des pièces d'or est une question extrêmement intéressante. En effet, on appelle prime d'une pièce d'or la différence entre sa valeur de bourse, c'est-à-dire le prix auquel elle s'échange, et la valeur de l'or qui est contenue dedans. En clair, pendant de très nombreuses années, le Napoléon a valu son poids, c'est-à-dire que c'était littéralement du lingot en rondelles. On a même eu toute une période où le Napoléon valait moins cher que son poids. En clair, nous avons eu une situation où moi je recommandais aux clients qui voulaient acheter d'acheter des Napoléons plutôt qu'un lingot, parce que ça leur coûtait moins cher d'acheter du Napoléon que d'acheter du lingot. Ça leur coûtait grosso modo 0,5% de moins une fois notre commission prise. Et donc là, prime zéro. Pourquoi prime zéro ? Parce qu'il n'y a pas d'acheteur, donc où vont les pièces ? Elles vont à la fonte. Et évidemment, les fondeurs ne travaillent pas pour rien, donc ils prennent une marge, donc ils sont acheteurs en dessous de ce qu'ils vont revendre, c'est-à-dire le prix du lingot. Mais plus les Monsieur Dupont, Monsieur Smith se mettent à acheter, eux achètent des pièces, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un lingot. Un lingot, aujourd'hui, pour fixer les idées, c'est dans les 23 000 euros. C'est quand même de l'argent.
Et puis, ils savent très bien qu'ils revendront plus facilement une pièce qu'un lingot, comme
bien entendu. Donc, plus il y a des monsieur Dupont qui veulent acheter 50 Napoléons, 100 Napoléons, etc., plus la demande sur le Napoléon est forte. Donc, plus il va falloir payer au-dessus de l'or qui est contenu dans un Napoléon. Un Napoléon, c'est 5,80 g, pour pouvoir trouver quelqu'un qui soit d'accord pour vous le vendre. Et lorsque l'on était en 1980, donc au maximum de la hausse de l'or, la prime du Napoléon était à 100%. C'est-à-dire qu'un Napoléon se traitait en bourse au double de la valeur de l'or qu'il contenait. Aujourd'hui, nous sommes grosso modo à 8 et 15% de prime pour la meilleure qualité de bourse qui est le Napoléon Coq 9.
Bon, on a encore des messages, on va s'arrêter là parce que j'ai encore un invité qui fait avoir le plaisir de vous présenter. Donc je remercie Michel Prieur, on a eu un certain nombre de messages qui nous demandaient comment le contacter. Donc
cgb.fr.
Donc monsieur Michel Prieur est directeur de la CGB. C'est donc, vous chercherez dans l'annuaire, c'est rue Vivienne à Paris dans le deuxième arrondissement, et il a un site internet tout à fait remarquable, énorme, colossal, avec beaucoup de photos et des pièces anciennes. On n'en a pas parlé ce soir. C'est essentiellement des pièces anciennes de tous les pays du monde.
Et, donc, et d'anciens billets de banque.
Et d'anciens billets de banque. Et vous tapez donc cgb.fr, cgb.fr, c'est vraiment, ils ont acheté leur site au début, donc ils ont un petit nom, très court. Et donc je vous remercie encore, Monsieur Prieur, d'être venu ce soir, et je pense que vu le nombre de questions qui nous ont été posées, que vous aurez quelques appels demain de passionnés des... Des questions horrifères.
Justement, je préfère que l'on m'envoie des e-mails à l'adresse...
Non, des courriels.
Pardon, des courriels, exact. À l'adresse cgb@cgb.fr.
cgb@cgb.fr. Voilà. Donc, comme traditionnellement, je l'avais déjà fait l'année dernière et puis l'année d'avant. Donc, en cette fin d'émission, je reçois Pierre-Marie, vieil ami de Serge de Beketch, que Serge de Beketch accueillait chaque année. Et donc Pierre-Marie est le spécialiste d'une pratique un peu particulière qui est le piano sans solfège. C'est-à-dire que ça permet de... C'est une technique, on va pas tout vous dévoiler ce soir, on n'aura pas le temps, qui permet... Faut pas parler tout de suite. Donc, qui permet de se faire plaisir et d'apprendre à jouer du piano sans passer par le solfège. Voilà, faut vous nous expliquer un peu plus, là. Hein.
Oui. Le piano sans solfège, c'est le piano que vous jouez directement. Dans un piano, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol. On ne s'occupe pas des bémols, on s'occupe de la note Do et de la tonalité Do. Do, Mi, Sol, Do égale une tonalité. Et on va jouer autour de ce Do tous les morceaux que je vais vous apprendre. À la deuxième leçon, vous commencez à jouer des morceaux qui sont les plus faciles, c'est-à-dire le Charles Trenet. Alors, pendant quelques semaines, vous jouez du Charles Trenet.
J'ai même joué du Charles Trenet.
Oui.
Enfin, moi, comme j'étais très mauvais, j'ai dû jouer à la troisième.
Non. Non, parce qu'au troisième mois, il commençait à jouer Je m'en I love et tous ces trucs très compliqués.
Non, l'homme que j'aime, n'est-ce pas?
Nous sommes Je m'en I love, ben oui.
Oui, mais c'est l'homme que j'aime, parce que nous sommes en Radio Courtoisie.
Oui, mais ça s'appelle The Man I Love. Oui, non, mais...
Il faudra mettre des pièces
dans la classification musicale, ça s'appelle The Man I Love. Parce qu'on sait que c'est Gershwin, et bon, ben voilà. Alors donc...
Quand j'avais commencé, il l'avait Maria de Schubert.
J'apprends pas le classique, voilà. J'apprends pas. L'Ave Maria de Schubert, oui, je le donne aux élèves, toujours en Do. Pourquoi jouer en Mi bémol, en Ré bémol, en Sol bémol? Pourquoi? Quand on accompagne un chanteur, sa voix est en Ré bémol ou en Ré ou en Mi, qu'importe. Donc il faut connaître toutes les tonalités. Mais quand on joue pour se faire plaisir, il n'y a pas besoin de connaître les 12 tonalités. Hein. Do, une tonalité, Ré bémol, une deuxième, Ré, une troisième, Mi bémol, etc. Ça fait 12 tonalités. Moi, j'apprends en Do. Au bout de 2 ou 3 mois...
C'est une méthode simplifiée.
Oui, mais qui apporte le plaisir. Qu'est-ce que ça peut me faire de jouer Douce France ou autre chose en Do, plutôt qu'en Mi bémol ou en Ré bémol? Qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, l'important, c'est de le jouer, c'est tout. Alors, il y a 2 tonalités de base, le Do majeur et le La mineur. C'est pareil, Do majeur, La mineur. Donc, quand on joue en Do... Vous avez les accords qui accompagnent ce Do. Bon, vous avez Do, Sol septième, Do, Do septième, Fa, etc. Bon. Mais quand on veut jouer vraiment en Do, alors il y a 12 ou 15 accords que je note sur un papier et que vous reprenez avec vos doigts. Bon, les doigts, c'est rien du tout. Quand vous faites Do, Mi, Sol, La, La mineur, La, Do, Mi, Sol, Ré mineur, Ré, Fa, La, Do, sol septième, sol si, ré fa. Bon, à partir de ces quatre accords, on joue tous les morceaux de traînée qu'on veut. Bon, c'est pas la peine de s'attarder à traîner. Au bout de 4 semaines, on en a assez avec les 4 ou 5 morceaux.
C'est bien,
traîner.
Charles Trenet.
Charles Trenet, oui.
Bien.
Mais, oui, mais il y a beaucoup plus compliqué que ça. Si vous aimez le jazz et que vous jouez un morceau de jazz, la tonalité ne permet pas de jouer avec 2 ou 3 ou 4 accords. Il y a une douzaine d'accords. Dans n'importe quel morceau de jazz. D'ailleurs, vous le savez puisque vous l'avez fait. Non, mais vous le savez.
Oui, oui.
Dans chaque morceau, il y a 5, 6, 7, 8 accords. Ces accords, pourquoi les jouer en la bémol, en ré bémol ou en fa? Qu'importe. On joue en do. Quand au bout de 2 ou 3 mois, on est très familiarisé en do, hein, une basse, un accord, une basse, un accord, eh bien, on peut éventuellement jouer la même chose en fa. On le comprendra beaucoup mieux. Ben oui, puisque vous mettez vos doigts en face des notes, et ça donne l'accord que vous voulez.
Et en fait, que vous poussez beaucoup, moi je l'ai fait, mais bon, je me suis arrêté parce que j'avais pas le temps. J'espère toujours reprendre.
C'est vrai, moi aussi, je sais.
Vous poussez beaucoup la mélodie et l'improvisation.
Ah oui, alors l'improvisation, c'est autre chose.
Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir.
Ah, c'est un vrai plaisir, l'improvisation. D'ailleurs, entre l'improvisation et la
composition... Serge improvisait.
Serge
Béquette.
Ah ben,
moi je me souviens, chez lui, il se mettait au piano.
Oui, oui.
Et hop, puis... Il improvisait très bien. Il avait des...
Il voulait pas dépasser l'improvisation.
Oui, oui.
Il improvisait.
Mais c'était pas une cacophonie. Hein,
ah non, pas du tout. Ah non, il jouait bien.
Il avait beaucoup d'idées.
Voilà ce qu'il faut. Quand on improvise,
il faut... Moi, je suis très sec, donc j'ai pas d'idées.
Alors, il y a un répertoire.
Oui, oui.
Il y a 200, 300 morceaux. Mais mes élèves, tant qu'ils sont avec moi, ça leur ferait environ 30 ou 40 morceaux. Dans ces 30 ou 40 morceaux, il y en a une douzaine qu'ils préfèrent encore, qu'ils jouent. Mais c'est pas ça seulement. C'est qu'un élève qui entend une mélodie, c'est la main droite, une mélodie. D'abord, faut lui montrer comment on trouve l'accord qui accompagne cette mélodie de la main gauche. Alors, après avoir appris à jouer une mélodie et un accompagnement qui sont écrits devant le et qu'il joue par cœur, parce que tout ça c'est l'oreille, on peut lui apprendre comment lire. Comment trouver l'accord? Il trouve lui-même. Et si un jour il entend une mélodie quelque part qu'il aime bien, il va la jouer à la main droite. Bon, il va reproduire la mélodie, c'est la main droite. Mais l'accompagnement, moi je lui apprends comment il va trouver l'accompagnement. Et c'est facile. Mais c'est tellement facile. Mais c'est, vous comprenez? La méthode classique qui vous fiche, mais ils ont raison, mais qui vous fiche le nez devant des notes à transposer dans des tonalités impossibles, ça vous donne l'idée du piano comme quelque chose de tellement difficile, et je le comprends. Mais quand quelqu'un passe avec moi à la deuxième leçon, il frotte ses mains, il dit mais comment, je joue la mer. Je
joue la mère de Charles Trenet.
La mère de Charles Trenet, bah bien sûr.
Non, pas la mère de Charles Trenet.
La mère,
virgule, de Charles Trenet.
La Trenet, Douce France, tout ça, enfin les morceaux de Charles Trenet. Il se rend compte, mais... Et alors, quand il rentre chez lui, et à sa femme ou ses enfants, il joue la mère... Mais comment, tu joues ça? Mais oui, je joue. Mais vous comprenez, c'est ahurissant de jouer du piano à la deuxième et troisième leçon. À la cinquième et sixième, on commence à jouer les feuilles mortes. Les feuilles mortes, c'est une des mélodies les plus belles que je connaisse, et les plus faciles, les feuilles mortes. Mais les feuilles mortes, puis alors, il y a tellement d'autres mélodies derrière. Mais à partir du moment où on a commencé à jouer le Charles Trenet, pendant 2-3 semaines, alors arrive la quatrième semaine, on peut s'attaquer directement soit aux feuilles mortes, soit au jazz.
Et donc pour arriver à ça, il faut travailler à peu près combien?
Moi je propose 20 minutes par jour, non pas 3 heures, comme dans le classique, mais je propose 20 minutes par jour. 20 minutes, c'est pas beaucoup, 20 minutes, 30 minutes.
Et vos cours durent combien de temps?
Mes cours, 1 heure par semaine.
Et après, on révise.
Ça peut être une heure et quart. Ah, on révise. Mais à chaque semaine, il y a un morceau différent. Un morceau que vous choisissez parmi ceux qui sont possibles. Parce que si vous me dites, moi, je veux jouer un morceau trop compliqué, je vous dirai non, vous n'êtes pas prêt pour jouer ce morceau. Mais si vous voulez jouer un morceau parmi ceux que je vous propose, alors vous allez et vous commencez à jouer ce morceau.
Voilà, bon. Alors,
oui.
Le plus important,
oui.
Il faut que vous donniez, je sais pas, une adresse ou un téléphone.
Ah, ben voilà, contacter. Un téléphone. Un téléphone, 06 67 67 33 29 72. 06 67 33 29 72. Là, vous m'appelez, surtout le matin ou le soir, et on prend rendez-vous. Et on essaye. Alors, les deux premières leçons sont gratuites. Ça veut dire que si vous continuez pas, vous ne payez rien.
Voilà.
Vous payez que lorsque vous avez compris que c'est extraordinaire, que c'est facile.
Il y a eu de grands exemples à Radio Courtoisie.
Ah,
ne serait-ce que de parler d'Anne Brassier.
Ah oui.
Là, qui n'est pas...
Anne Brassier.
Pas ici, mais voilà.
Anne Brassier qui jouait du piano classique. Elle a pris ma méthode pour elle, et maintenant, en vacances à Toulon, elle a son piano et elle joue à ma manière. Et oui, et son fils aussi. Son fils, je l'ai eu, son fils comme élève. C'est formidable. Ah oui, mais c'est extraordinaire de voir des gens qui jouent du piano tout de suite.
On va se quitter là, donc on redonne
oui.
juste le téléphone.
Oui, 06.
Non.
Pardon.
C'est Françoise qui va le dire.
06 67 33 29. 72.
Voilà.
Il faut prendre rendez-vous.
Il faut prendre rendez-vous, oui.
Voilà. Très bien. Et donc, on se retrouve dans 4 semaines, mais avant, il y a le
8 avril.
Notre message.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française, dirigé ce soir par Emmanuel Ratier, avec l'assistance de Françoise Varlet. Diffusé en direct le 11 mars de 18h à 21h, en différé le 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu de cassette pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. À avance, merci. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie. À 21h30, le libre journal de Paul-Marie Couteau, assisté de Marie-Josée. Et puis à 23h, chant religieux polyphonique avec Spen in Allium de Thomas Tallis, dans le cadre du chant religieux polyphonique. À minuit, le libre journal des économistes, dirigé par Jacques Garello, invité Fred Aftalion, industriel, économiste, écrivain, Nicolas Lecossin, journaliste, écrivain. Le profit et le partage du profit. À 2h, le libre journal de la résistance française, dirigé par Emmanuel Ratier, assisté de Françoise Varlet. Invité Camille-Marie Gallic, journaliste, Arnaud Guyot-Janin, journaliste, Alain Sanders, journaliste, Michel Prieur, numismate, Pierre de Cugis, professeur de piano. Le club de la presse nationale, l'or est-il une valeur refuge, le piano sans solfège.
À 6h, les livres du jour, le Florilège des Arts de Jean-Bernard Caourd-Aspry. Invité Stella Kalinina, secrétaire de l'association Stella Art International. Et Thierry Pagava, danseuse, chorégraphe. Jocelyne Meunier, secrétaire générale du Salon de la Danse. Secrétaire générale adjointe de l'association pour un musée de la danse. Galina Pogoyeva, présidente de l'association Une fenêtre sur l'Europe, vice-présidente de l'association des Amis du Ballet Russe. Actualité de la danse, hommage à Jacques Douai. Et puis dans quelques instants, votre bulletin de réinformation.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur...